Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'Épître, dans l'Alléluia qui vient d'être chanté, dans la communion qui sera chantée avec beaucoup de ferveur, d'entrain, dans ce très beau sixième mode qui est joyeux, avec cette gradation, ce crescendo des trois Alléluia à la fin. Le Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc cette fête, Itaque et Poulemour. Célébrons cette fête, dit la communion, en condensant l'épître de saint Paul avec les azimes de la sincérité et de la vérité. Donc le Christ, notre Pâques, a été immolé, ou bien le Christ, c'est le Christ immolé, c'est notre Pâques, nous rappelle le lien entre ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, sacrifice qui n'est pas vain et qui mène à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa victoire sur la mort du péché et même sur la mort de façon générale. Ce sacrifice est en lien avec le sacrifice de l'Ancien Testament, le sacrifice par excellence de l'Ancien Testament, celui de la première Pâque où l'agneau a été immolé, l'agneau pascal qui devait être immolé par toutes les familles des Hébreux avant le passage de la terre d'Égypte qui était devenue une terre d'esclavage vers la terre promise, du moins pas immédiatement, mais d'abord vers le Sinaï, la montagne sainte, la montagne de Dieu. Cet agneau pascal devait être mangé avec des pains azimes, c'est-à-dire des pains sans levain, non in fermento, nequitiae et malitiae, interprète l'apôtre saint Paul, non dans le ferment de la malice, de la folie. Voilà ce que nous dit l'apôtre. Le ferment parfois a une consonance positive. Notre Seigneur nous dit d'être ferment dans la pâte, mais aussi une consonance négative, puisque le ferment est une forme de corruption. Donc, nous devons célébrer cette Pâque de cette manière, à savoir avec les azimes, sans cette corruption, avec les azimes de la sincérité et de la vérité, nous dit l'apôtre saint Paul. Eilikrenia en grec et aletheia, la sincérité et la vérité. Pourquoi revenir à ces mots grecs? Parce que ils sont employés dans le Nouveau Testament tel quel. Parce que les termes latins, si on les transcrit en plus dans notre français moderne, avec le sens moderne qu'on leur connaît, je dirais malheureusement, ne sont pas assez complets et ne nous permettent pas de bien rentrer dans ce message que l'Église, après saint Paul, veut nous donner en cette fête de Pâques. Donc, mes bien chers frères, nous devons rentrer dans cette fête avec les azimes de la sincérité et de la vérité, c'est-à-dire avec un cœur qui est renouvelé. Renouvelé d'abord par la sincérité. Ce mot grec a une étymologie qui est douteuse. Douteuse dans ce sens que on a deux étymologies possibles. Mais les deux sont intéressantes pour notre vie spirituelle. D'un côté, ce terme pourrait venir du rayon du soleil et du verbe juger, c'est-à-dire vous jugez quelque chose, par exemple une pierre précieuse au rayon du soleil pour en voir sa pureté. L'autre signification, c'est celle plus terre à terre du grain qu'on va secouer et qu'on va jeter au vent, et on n'a plus ces habitudes maintenant, on a perdu cela avec la machinisation tous azimuts, ce grain qu'on jette au vent, et le vent va emporter tout ce qui est impur, justement, l'écorce extérieure, le son, pour ne garder que le grain pur. Donc finalement, même si nous avons une double étymologie, cette étymologie par rapport à la lumière, au soleil, belle étymologie, bien sûr par rapport au mystère de Pâques, nous avons aussi cette belle étymologie de la pureté du grain qui là aussi nous ramène au mystère de Pâques et aux azimes. Et donc la sincérité chrétienne, la sincérité dans le sens paulinien, c'est un cœur qui est vrai, qui est clair, qui est éprouvé, qui est sans compromis. Un cœur qui peut se tenir devant Dieu sans ombre, sans ruse, sans cette écorce qui va en altérer l'aspect, et non seulement l'aspect, mais aussi le goût. Cela veut dire, mes bien chers frères, que notre foi doit être sans mélange. Notre foi doit être pure. Ce n'est pas une foi de façade que nous devons avoir. La fête de Pâques, c'est la fête de la foi. La nuit dernière, nous avons renouvelé les promesses de notre baptême. Vous avez dit avec conviction, je l'ai entendu, nous croyons, et vous avez répété cela quand le prêtre donc a énombré les principaux éléments de notre foi. Cette foi ne doit pas être une foi de façade, une foi tiède, une foi qu'on adapte selon les circonstances. C'est cela que signifie le mot sincérité. Vous voyez que ce n'est pas une sincérité qui est purement subjectiviste. C'est pas, bien, notre cœur, nous agissons selon ce que nous pensons, selon ce que nous dicte notre cœur, comme on le dit aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est dans ce sens qu'on entend la sincérité. Non, cette sincérité chrétienne, c'est une unification de toute notre vie et d'abord une adhésion à la foi, à une foi qui n'est pas double. Un chrétien sincère, c'est un chrétien qui est unifié. Ce qu'il croit, il le vit. Ce qu'il dit au credo, il essaye, il veille à l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Si la pierre que nous sommes est brute, il essaye de la tailler avec l'aide de Dieu pour qu'elle devienne bien pure, bien brillante. Le grain que nous sommes, nous le passons au vent, V-A-N, pour que le vent, V-E-N-T, emporte tout ce qu'il y a d'impur. Voilà, mes bien chers frères, le sens précis. Une foi qui est sans mélange. Sans mélange, bien sûr, de syncrétisme. C'est la mode aujourd'hui de mélanger la foi et d'autres cultures, mais d'autres soi-disant cultures qui ne sont pas simplement des cultures, qui sont des éléments de religion. On prend un peu de notre Seigneur Jésus-Christ comme un maître spirituel, au même titre que Bouddha, Lao Tzu et compagnie, comme le disait Bergoglio, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps, lors d'un voyage en Asie, sur le même plan. On n'a pas notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, la seule voie, vérité, vie. Non, on a soi-disant d'autres sagesses, et on va les mélanger, c'est ça le syncrétisme, à la religion catholique. Ne soyons pas des chrétiens comme cela. Nous devons, mes bien chers frères, fuir toutes ces choses-là. Que ce soit bien sûr yoga, méditation orientale, ésotérisme, tout ce qui est de l'ordre du bien-être, mais qui ramène à des philosophies qui ont une valeur religieuse. On doit même veiller à ne pas employer ces termes dans notre langage. Le chrétien n'est pas zen. Le chrétien, il est paisible. Donc le non-mélange qui se trouve dans ce terme de sincérité, il doit embrasser toute notre vie. On doit purifier nos pensées. On doit purifier nos actions. On doit purifier nos conceptions. On doit purifier notre langage même. C'est tout cela, être un chrétien sincère. Vous voyez qu'on est très loin du concept purement subjectiviste de faire ce que nous dicte notre cœur ou nos convictions. Donc le chrétien, c'est cela. Et si nous voulons bien rentrer dans ce mystère de Pâques, nous devons devenir ces azymes de la sincérité. Notre foi, ce n'est pas du bricolage. Les azymes de la sincérité et de la vérité. Ces termes pourraient sembler comme une redondance. On parle d'une foi qui est pure, qui est sans mélange, dans tous ses aspects. Et aletheia en grec signifie vérité, donc l'adhésion à une vérité qui est pure, sans mélange, etc. Aletheia, c'est un terme grec qui comprend le privatif, négatif, le a qui est au début. Et donc ça signifie ce qui n'est pas caché. Ce qui est en quelque sorte évident, ce qui est réel, conforme à ce qui est. Donc les anciens philosophes grecs avaient une vénération pour l'aletheia, une vénération pour la vérité, une vénération pour la recherche de ce qui est réellement. C'est important parce que là aussi, nous sommes dans l'objectivité. Et il était tout à fait normal que ce terme soit transposé dans la doctrine chrétienne, soit utilisé dans la révélation par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est la voie, la vérité, la vie, utilisée par l'apôtre saint Paul, ici dans ce contexte et dans d'autres contextes. Parce que la vérité, nous la connaissons. Et la vérité, ce n'est pas une opinion. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et cette résurrection, c'est une vérité absolue. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas, comme le disent les modernistes, ressuscité dans le cœur des disciples, dans le cœur des apôtres. Il n'y a pas de distinction entre le Christ historique et le Christ de la foi, comme le dénonçait bien sûr déjà saint Pidis contre le premier modernisme. Il est un, simple, il n'y a qu'une seule vérité. Et la première vérité, si on peut dire, c'est celle, effectivement, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette vérité entraîne l'adhésion ferme à notre Seigneur Jésus-Christ, à tout son enseignement. Donc la recherche de la vérité, c'est cette recherche de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas quelque chose de personnel, ce n'est pas pour nous faire du bien que nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. L'aletheia, la vérité, elle est en dehors de nous. Et le but, de la recherche de la vérité, c'est justement de la connaître pour y adhérer. Par conséquent, quand l'apôtre nous dit que nous devons rentrer dans ce mystère de Pâques avec les azimes de la sincérité, de la vérité, c'est avec cette adhésion ferme à notre Seigneur Jésus-Christ. Non plus l'adhésion chancelante que pouvaient avoir les apôtres avant et surtout pendant la passion de notre Seigneur. Non pas cette foi chancelante et, comme je vous le rappelais dimanche dernier, appuyée sur finalement des faussetés, des conceptions personnelles par rapport au Messie, alors que notre Seigneur Jésus-Christ avait été clair. Cette conception qu'on voit chez les disciples d'Emmaüs, bel épisode, évidemment toujours émouvant. Notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît à ses pauvres disciples, ils sont tristes, ils rentrent chez eux à Emmaüs et ils se disent ben tout est fini quoi. Un pèlerin un peu masqué leur apparaît, sort un peu nulle part, Jésus se cache et il leur demande « Pourquoi êtes-vous tristes ?» Eh bien, il leur raconte « On croyait que c'était le Messie, qu'il allait rétablir la gloire, le royaume d'Israël, etc. » Vous imaginez un peu, ils rentrent comme ça chez eux et notre Seigneur... Il est pique au vif et immédiatement il leur dit « O stulti et tardi corde ad credendum » « Au cœur, intelligence, stupide, stulti » c'est un mot qui est fort, fou, insensé et tardi donc attardé par rapport à la foi, à des credendum, pour croire. Et il se laisse pas encore reconnaître, il prend toutes les écritures que ses disciples connaissaient, et il leur montre que le Messie devait passer par toutes ces étapes. Il leur montre quelle est la vérité de la foi. La vérité est bien que l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, comme Jean-Baptiste, et peut-être ces pèlerins d'Emmaüs avaient été auparavant des disciples de Saint Jean-Baptiste. Et ils savent ce que c'est que l'agneau pascal, le premier agneau. Notre Seigneur leur explique tout ça, leur montre comment pouvaient-ils penser à ce soi-disant Messie invincible, glorieux, alors que toute l'écriture montre que le Messie, c'est un sacrifié, que le Christ doit être immolé, que notre Pâque, c'est le Christ immolé. C'est ça, la vérité. Mais la vérité ne s'arrête pas à l'immolation, au sacrifice de la croix, parce que sinon, notre foi, comme le dit saint Paul, serait vaine. La vérité déterminante, c'est ce moment de la résurrection, cette victoire sur la mort, et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ se découvre comme étant le Messie qui est promis, celui qui doit vaincre la mort du péché. Et donc, les azimes de la vérité, pour nous, c'est cette adhésion ferme, non pas à nos propres idées, mais à ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'est la vie chrétienne. Tout cela, bien entendu, est contenu dans le credo. Tout cela est contenu dans nos catéchismes, avec toutes les conséquences dans l'ordre pratique. Adhérer à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, adhérer à ce mystère de Pâques, à ce mystère de l'immolation de l'agneau et de sa résurrection, c'est vivre selon notre foi, c'est la professer de manière clair. Ce n'est pas une opinion personnelle. Nous ne croyons pas parce que cela nous fait du bien. Nous croyons parce que c'est la vérité. Et nous devons l'affirmer aux yeux du monde. La vérité amène à la profession de foi, celle que nous avons faite la nuit dernière, celle que nous faisons chaque dimanche à la messe en chantant le credo avec conviction. Et surtout, cette profession de foi, non seulement en parole, mais cette profession de foi pratique, témoigner de la vérité, c'est vivre en chrétien. Parce que c'est la meilleure manière de témoigner de la vérité que de mourir au péché, au mensonge, au mal, et de vivre à la vérité, de vivre à la vertu, de vivre à Dieu. Celui qui vit, il vit, vivit Deo, il vit de Dieu, il vit pour Dieu, il vit par Dieu. Finalement, comme le dit une fois de plus l'apôtre saint Paul, et comme nous le répéterons en permanence dans la liturgie de ce temps pascal. Donc, rentrons, comme je vous le disais, comme je vous y invitais jeudi dernier, rentrons dans la liturgie. Au quotidien, la liturgie nous dit de nous réjouir de parce que le Christ immolé est ressuscité, parce que le Christ est notre Pâque. La liturgie nous dit de chanter Alléluia, c'est-à-dire gloire à Dieu, de façon joyeuse. La liturgie nous dit d'être joyeux. Pourquoi et comment ? Eh bien, parce que notre Pâque, c'est le Christ ressuscité. Comment ? Par les azymes de la sincérité et de la vérité. De la sincérité, c'est-à-dire d'une foi qui est pure, d'un cœur qui est sans mélange, qui est simple, qui est débarrassé de tout ce qui n'appartient pas justement à notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, de tout ce qui n'est pas censé appartenir à la foi chrétienne, à la pratique chrétienne, à notre vie chrétienne. Nous devons aujourd'hui nous en débarrasser. Expurgate vetus fermentum. Expurgez de vous ce vieux ferment, ut sitis nova conspersio sicut estis adzimi. Pour être ces azymes purs, sans levain, ces azymes de la sincérité, ces azymes de la vérité, cette vérité qui est la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. À nous donc de nous débarrasser de ce vieux ferment, de nous dépouiller du vieil homme. Et vous le voyez, la fête de Pâques, c'est la fin du carême, effectivement, mais ce n'est pas la fin de nos efforts spirituels. Nous ne devons pas laisser filer maintenant notre vie spirituelle comme on laisse filer une trottinette dans une pente. Vous savez ce qu'il en ressort, une chute. Et ça fait mal. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Et donc, dans la fête de Pâques, nous avons monté jusqu'au sommet du calvaire. Il ne s'agit pas de redescendre maintenant. Il s'agit de rester là, de rester ferme, adhérant fermement à notre Seigneur Jésus-Christ et lui montrant dans notre vie que nous croyons en lui, que nous l'aimons, que nous voulons être aussi ces azymes de la sincérité et de la vérité. Donc demandons aujourd'hui à notre Seigneur cette grâce parce que c'en est une et entamons notre temps pascal comme nous avons entamé notre carême avec la même volonté de conversion, d'avancement dans notre vie spirituelle, d'adhésion ferme à la vérité, non seulement dans notre pensée, dans nos paroles, dans notre cœur, mais dans toute notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.